France Culture.
Merci pour la préparation là, il paraît que c'était super chouette.
France Culture.
Non, c'est franchement Mathilde qui était hyper sympa parce qu'en plus, non, je l'ai fait galérer un peu, j'ai pas choisi tout de suite les trucs, j'ai hésité entre des trucs,
tout le monde,
à chaque fois. Ouais.
Tout le monde fait ça.
Oui, mais tout de même.
C'est trop bien.
Le book club.
Pas forcément besoin de vous rapprocher du micro.
Ouais.
Ce qui est important, c'est de garder une distance à peu près constante.
Ok, tout de même. Ok.
Et l'important, c'est d'être bien devant.
Très bien.
Et là, la distance, elle est super.
Ok.
C'est noté. Dans la bibliothèque de Younes Boussif. Marie Richeux.
Beaucoup de spectateurs vous voient apparaître pour la première fois sur un écran, pédalant à toute vitesse, aspirant, humoriste, répétant des sketchs à voix haute que vous rêvez de performer le soir. Sur scène, vous êtes alors Nézir, dans la série Drôle, réalisée par Fanny Herrero. Dans le dernier film d'Amine Adjina, la vocation c'est plutôt la cuisine. Vous y montez un resto, y mentez à tout le monde, croyant protéger vos amours et votre famille. Mehdi, c'est le personnage principal de ce film qui vous vaut d'être prénommé au César dans la catégorie révélation. Masculine, se ment surtout à lui-même et c'est sa manière de s'inventer une vie entre l'héritage algérien et la vie française. Thème qui est aussi présent dans un morceau qui s'appelle Identité remarquable que vous sortez en 2022 et au milieu de son clip, certaines phrases s'inscrivent en toutes lettres sur l'image. Elles disent « Je suis français à ce qui paraît, je suis arabe à ce qui paraît », elles disent encore « Je rappe parce que j'ai des choses à dire ». Dans ce même clip, le chanteur est surpris avec un livre à la main au volant de la voiture avant que le rap ne reprenne sous la pluie. Avoir des choses à dire, c'est peut-être aussi pour cela que vous jouez la comédie, que vous réalisez des clips, que vous avez fondé un label et peut-être pour ça qu'on vous lira un jour. En tout cas, des choses à dire, c'est un bon début pour une émission de radio. Bonjour.
Bonjour Marie.
Soyez le bienvenu, Younes Boussif. Merci beaucoup d'ouvrir votre bibliothèque au Book Club de France Culture.
Merci de me recevoir, c'est
ça
chouette.
Ça fait plaisir. Avant d'ouvrir votre bibliothèque pour France Culture, vous encouragez les autres à ouvrir leur cœur dans un podcast qui s'appelait « Comment déclarer sa flamme ».
Les autres et moi-même, les autres et moi-même.
5 épisodes à écouter en podcast infiniment sur l'application Radio France où, en gros, vous dépliez à partir d'influences culturelles, de références culturelles, différentes manières d'ouvrir son cœur. Et les galères qui en découlent.
Oui, mais je crois que
j'ai
déclaré. Ouais, ouais, tout à fait. Mais je crois que j'ai déclaré ma flamme à France Culture un peu. J'ai l'impression qu'on a une jolie relation depuis ce podcast.
C'est vrai.
Ouais, tout à fait. On est bien.
Normalement.
Ouais, non, j'ai toujours.
On fait en sorte.
Ouais, ça a l'air vraiment. je le sens comme ça aussi. Et c'est chouette d'entendre aussi parler. Alors c'est chouette, c'est mon nouveau truc du moment. Je dis beaucoup c'est chouette. Je sais pas ce qui me prend. Je dis beaucoup c'est chouette, voilà. Et c'est chouette d'entendre parler d'identité remarquable. Ça fait longtemps que, enfin, le rap c'est une partie de ma vie qui est un peu derrière moi. Quant à moi en tant que rappeur, personnellement, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, je suis au sein d'un label et que je continue d'être dans ce milieu-là. Et du coup, ça me fait toujours plaisir, en fait, quand on vient
Mais comme une ancienne vie ou plutôt comme quelque chose qui est encore...
De plus en plus, j'ai l'impression de sentir que c'est un truc qui appartient au passé et que j'y suis... Et c'est un peu particulier. Et même en ce moment, une réflexion qui m'habite, et j'en discutais avec une amie récemment, c'est le fait qu'avant, je m'exprimais davantage, en fait, puisque dans cet art-là, dans le rap, je ne cessais d'écrire ou de sortir des choses. Je sens que ça me manque un peu à me demander est-ce que ça te manque pas de t'exprimer, etc. Et c'est vrai, un peu. Et j'ai hâte de réussir peut-être. Donc là, il y a en tant qu'acteur, effectivement, que je fais des choses, mais c'est les textes des autres, c'est pas la même chose. Et effectivement, vous le disiez à la fin de votre introduction, j'adorerais écrire et revenir vous parler d'un bouquin, peut-être, qui sait, Inch'Allah.
En tout cas, dans ce morceau, il y avait j'ai des choses à dire. Et en effet, je pense qu'il y a beaucoup de manières de dire des choses quand on a envie de s'exprimer artistiquement. Peut-être le rap, c'était un premier moment, peut-être vous y reviendrez. Mais est-ce que vous avez l'impression de pouvoir dire des choses, par exemple, en manageant des artistes, en accompagnant par exemple la carrière de Tiff, en écrivant des films au sens, par exemple, je ne sais pas moi, les clips de votre musique, c'était des petits films, en participant à des films en tant que comédien ou à des séries?
Oui, bien sûr. Mais toujours sous couvert d'autrui, toujours derrière quelque chose, derrière un paravent. Il y a un truc quand même quand on s'expose soi-même en tant que rappeur, en tant qu'auteur, j'imagine, j'ai pas encore sorti de truc, mais c'est quand même une démarche différente.
Mais c'est pas vous qui dites
jeu. Mais c'est pas moi qui dis jeu, exactement. Et du coup, c'est pas le même effet. Et je sens que ça me manque.
Je sais pas, il y a un petit chemin vers l'écriture, non?
Complètement, mais vous le disiez assez justement. Je crois que le premier médium, en fait, avec lequel je me suis exprimé, c'est le rap. Naturellement, je me suis mis à faire des punchlines au lycée. J'adorais le rap, j'ai rencontré des potes qui adoraient le rap. Et ça a été un moyen d'expression hyper facile, parce qu'il y a besoin de rien, quasiment. Et on s'est mis à faire du rap, et c'est, voilà. Mais en fait, le dénominateur commun entre toutes les passions que je peux avoir, que ce soit l'acting, le rap, l'écriture autre, c'est le mot, vraiment. Et j'ai un vrai amour pour les phrases qui me choquent, pour celles qui me... Ce que j'adore dans les livres notamment, ou ailleurs, dans n'importe quel art, quand je vais au cinéma ou quoi, c'est quand il y a une phrase qui te débloque une pensée dans le cerveau, qui vient mettre des mots sur un truc que tu pouvais sentir, mais que tu n'avais pas encore réussi à écrire, en fait. Pour l'instant, j'ai encore rien écrit qui me satisfasse assez pour le... pour ça y est, le dévoiler complètement. Mais j'y viens.
Chemin faisant.
Chemin faisant, c'est ça. Ouais.
Vous êtes venu avec des livres ici dans le studio.
C'est ça.
C'est notre manière de visiter votre bibliothèque à distance. Elle ressemble à quoi, cette bibliothèque ?
Mais elle ressemble pas à grand-chose en ce moment. Elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à un rêve que j'ai dans ma tête. Je l'imagine, cette bibliothèque.
Mais ça suffit parfois, non ?
Peut-être. Chemin faisant aussi, on verra. Parce que, par exemple, moi, un grand rêve que j'avais étant petit, j'accompagnais ma mère à Carrefour quand elle faisait les courses. Et j'allais au rayon manga ou au BD et je m'asseyais en tailleur et je lisais comme pas mal d'autres gosses.
On en voit des petites silhouettes. Voilà.
Donc ça, moi, j'ai vraiment fait ça beaucoup. Et tous les mangas que j'ai avalés aussi étant petit, on parlera d'un notamment, mais c'était trop bien et je les lisais dehors à la bibliothèque ou à Carrefour ou nanani. Je les avais pas vraiment chez moi, c'était un peu cher et puis bon, voilà, bref, je les avais pas. Et j'étais en mode, moi, plus tard, je vais avoir un peu d'argent et j'irai à Carrefour et j'aurai un chariot et je vais tout prendre et je vais tous aller les mettre dans ma bibliothèque. Et outre les mangas, qui sont toujours un rêve qui est toujours présent, que j'avais toujours envie de faire, j'ai un peu hâte de cette bibliothèque que j'imagine au coin du feu. Il faut un feu, je crois que c'est vraiment important.
Ah oui, donc ça nécessite d'autres investissements que les livres.
C'est ça, exactement. Donc c'est pas tout de suite, j'y suis pas encore. Et donc aujourd'hui, elle ressemble pas à grand chose, je déménage un peu à droite, à gauche, elle est toute petite, donc c'est très bien qu'on soit au studio en réalité. Mais je l'imagine plus tard avec tous mes livres préférés, tous ceux que j'ai envie aussi que, je sais pas, des enfants à venir peut-être puissent lire aussi, notamment les mangas, etc. Voilà. Et en même temps, quand vous disiez peut-être que ça suffit qu'elle soit dans la tête parfois, bah, j'ai l'impression que peut-être je commence à évoluer là-dessus. Est-ce que ça sert à quelque chose de les avoir ? En fait, là, je suis arrivé dans le 19e, il y a plein de bibliothèques à côté, on y va, il y a les trucs, on les prend. Ça se rééchange parce que si c'est pour qu'ils prennent la poussière, c'est dommage aussi. Bref,
on verra. À suivre.
Ouais, affaire à suivre.
Il y avait des livres chez vous ?
Ouais. Complètement. Déjà, merci maman. C'est complètement grâce à maman que je lis. Parce que, ben alors, elle a fait la même technique avec ses trois enfants, mais ça a plus marché avec moi.
Ouais, ça arrive parfois.
C'est, ouais. Apparemment, elle a fait la même chose, mais, c'est-à-dire qu'elle me lisait des histoires quand j'étais petit, qu'elle s'arrêtait au milieu, plus ou moins, quand c'était un peu bien intense, qu'elle me disait, bah, si tu veux la suite, tu te débrouilles. Et visiblement, alors, c'est ce qu'elle m'a raconté. Moi, je m'en souviens pas particulièrement, mais voilà, ça aurait marché comme ça.
Donc, ça vous aurait donné le goût.
Ouais. Et ensuite, j'ai vraiment avalé des bouquins étant petit. C'était génial. On descendait au Maroc ou en Algérie en voiture et j'avais 10 bouquins et j'en lisais 4 sur le chemin. Et...
Sans vomir.
Alors ouais, ça marche quand on est sur l'autoroute. Quand les routes sont sinueuses, ça fonctionne pas. Quand c'est le début du chemin, faut être malin en fait. Faut commencer quand on rentre sur l'autoroute. Ça, c'est un petit tip que je offre comme ça.
Gratuit.
Et aussi, moi, je suis le dernier de ma famille. Mon grand frère et ma grande sœur, avec qui je suis très proche, ont 9 et 13 ans de plus que moi. Mais du coup, j'ai presque grandi comme un enfant unique, presque, parce qu'ils étaient plus ou moins un peu partis. J'ai eu beaucoup de moments avec juste mes parents, etc. Et du coup, bah, c'était bien en fait de... Quand tu vas au bled 2 mois l'été, il n'y a pas forcément toujours des choses à faire. Quand tu pars même en vacances avec juste tes deux parents qui sont... Voilà, t'as pas forcément des trucs. Et en fait, quand tu te mets à lire tout le clan des Hotori, et quand tu rentrais dans des sagas comme ça, des univers hyper riches, et en fait, t'avalais les choses, quoi.
Du coup, vous en parliez avec qui, alors ?
Peut-être qu'il y avait peut-être des copines un peu qui lisaient ou avec qui on pouvait échanger. Mais mes copines, c'était aussi les bibliothécaires. Je me souviens de la bibliothèque à laquelle ma mère m'emmenait entre cette période-là, qui était dans un quartier un peu pas très loin de chez moi. Et Emmanuel, c'est le nom de la bibliothécaire. Elle me connaissait. Donc j'allais la voir et je disais, bon, alors qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui ? Et elle me disait, donc ça, c'est bien. Parce qu'elle lisait beaucoup de jeunesse, quoi, de trucs fantastiques. Moi, à ce moment-là, j'étais très dans le fantastique. Et elle me proposait 4, 5, 6 livres. Elle me faisait aussi, j'avais droit, alors, tu sais, t'avais la carte bibliothèque. Et en fait, malgré, j'avais droit à 6, 7, et moi, j'avais toujours droit à 10, 12. Elle me disait, bon, c'est pas grave, c'est toi. J'étais un peu un chouchou. Et c'était bien. C'était vraiment bien.
Il n'y a pas que des livres jeunesse sur cette table, il y en aura et c'est super qu'on puisse évoquer des lectures de jeunesse avec vous, Younes Boussif. Quand est-ce que vous changez un peu de territoire de lecture ?
figurez-vous que je crois que quand j'arrive, donc tac tac, collège, je lis encore bien, lycée, j'arrive et je lis moins. Je lis moins, il y a plein de copains, il y a plein d'autres choses aussi à faire qui font que je lis moins. Et il y a plus de rap, il y a plus d'autres choses en fait. Mais l'amour, enfin je suis très fidèle à cet amour-là et je sais que j'adore lire, mais juste je lis moins. Et je crois que ça me manque, petit à petit ça va me manquer.
De lire.
De lire. Et je me dis mince, faut que ça revienne quand même un moment. Et en fait, on entend, en fait, c'est quand on entend d'autres références. En fait, quand t'entends ça, c'est extraordinaire, ça, c'est machin, ça, c'est truc, t'as quand même envie d'aller voir.
Mais où, en classe?
En classe, les voisins, les amis de mes parents, je sais pas. J'ai toujours évolué dans plein d'univers hyper différents, variés, avec des gens qui lisaient beaucoup, d'autres pas du tout. Et du coup, quand j'étais avec des gens qui lisaient beaucoup, t'entends tel truc. Je sais pas, quand je suis arrivé à Paris, à 20 piges, je me suis retrouvé au conservatoire du 8e à faire du théâtre, c'était trop bien. Et c'est à ce moment-là que j'entends parler de Dostoïevski, par exemple, je me souviens. Et qu'on me dit, c'était ma prof de théâtre, je crois, qui en parlait, qui était en mode, mais c'est extraordinaire, Dostoïevski et tout. C'est une espèce de culture un peu légitime, tu sais, enfin, une espèce de. Voilà, tu
lis. C'est une des grandes cultures légitimes.
Voilà, t'as envie d'être capable d'en parler. Mais en tout cas, par exemple, Dostoïevski, quand j'y vais et que je lis L'Idiot à cette période-là, J'adore adorer ce truc-là, tu vois. Je suis content, je comprends, et je me dis, ah ouais, ok, je comprends pourquoi on en parle.
Vous avez dit que c'était une ancienne vie, du coup, on est un peu sur la pointe des pieds, mais on avait envie d'écouter Mima. On peut ?
Mais grave, en plus, je suis là-dedans. Récemment, j'y ai repensé parce que dans Mima, je sans spoiler trop, je parle de la langue arabe et de mon rapport à la langue arabe.
Et vous dites, il faut que je l'apprenne.
Exactement. Et figurez-vous, j'ai une note que j'ai repris récemment, dans laquelle je mets les raisons pour lesquelles je dois apprendre l'arabe, d'autant plus. Et l'une des raisons, la première, était de pouvoir parler avec ma grand-mère, qui est décédée l'été dernier, paix à son âme, et donc avec laquelle j'ai fait de mon mieux, mais j'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire. Ça, c'était la raison numéro un. Et en fait, les raisons s'accumulent, et notamment même mon envie de travailler, de pouvoir avoir des rôles aussi en arabe. Et parce que moi, j'ai un arabe qui baragouine pour l'instant. Je me débrouille, mais c'est pas assez bon. Et vraiment, là, je suis sur le dossier, là.
Et puisqu'on parlait d'images, c'est un clip très beau où il y a à la fois un montage d'images de famille, des images très intimes, des images de danse, de marche. Le petit garçon de Djellaba Blanche, c'est vous ?
Ouais.
Et un texte qui s'écrit en trois langues, français, arabe phonétique et arabe dans l'alphabet.
Ouais, tout à fait.
En jaune, juste au coin de l'image, c'est très beau. Mima.
Ça va, Mima ?
Mima perd la tête, elle est tombée sur la tête. Le temps passe, ça m'inquiète. Depuis petit peu, je me répète. Apprends à parler sa langue. Elle est là, mais ma grand-mère me manque. Fais vite car le bateau tangue. Elle va pas toujours m'attendre. Mima perd la tête, elle est tombée sur la tête. Le temps passe, ça m'inquiète. Depuis petit peu, je me répète. Apprends à parler sa langue. Elle est là, mais ma grand-mère me manque. Fais vite car le bateau tend. Elle va pas toujours m'attendre.
Hachouma Aliya, mana hadarch l'arabia. L'accent d'Yeli, bhal français, oui, wild l'bladi, dahak fia.
Mima,
t'habek, kalbi ou j'ani man fahmek. Ani, m'aki, gulli alesh, tu hashtag. Gulli Mima, ki kunti. Minni kan andek, omri. Minni kan andek, ahlamek, firasik, bhali.
Mima perd la tête, elle est tombée sur la tête. Le temps passe, ça m'inquiète. Depuis petit peu, je me répète. Apprends à parler sa langue. Elle est là, mais ma grand-mère me manque. Fais vite car le bateau tend. Elle va pas toujours m'attendre. Mima perd la tête, elle est tombée sur la tête. Le temps passe, ça m'inquiète. Depuis petit peu, je me répète. Apprends à parler sa langue. Elle est là, mais ma grand-mère me manque. Car le bateau tend, elle va pas toujours m'attendre.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Younes Boussif. Marie Riche.
Du coup, France Culture sera aussi une maison où il y aura la voix de votre grand-mère dans les archives.
Ouais, ça m'a ému de la réentendre.
On est dans le deuxième moment de votre bibliothèque, Younes Boussif. On vous a demandé, comme à tout le monde, de choisir 5 livres étapes. Donc, tout le monde interprète cette consigne à sa façon. Et en l'occurrence, vous avez commencé, vous, par une lecture d'enfance. Vous disiez que votre mère vous lisait des textes à voix haute en s'arrêtant au bon moment. Parmi les textes que vous avez choisis, il y a « Simple » de Marie-Aude Muraille. Est-ce que vous voulez nous dire un mot avant de lire l'extrait ?
Ouais, je me souviens que c'était un de mes premiers livres préférés. Quand j'étais petit, je me souviens que celui-ci m'a marqué. Je me suis dit « Ah tiens, ça c'est mon préféré. » On n'a pas toujours un préféré. Bah, à ce moment-là, c'était vraiment celui-ci. Et j'en garde à chaque fois un souvenir précieux. Et je trouve que c'est chouette aussi pour rentrer dans la lecture. Genre, je le conseille aux petits qui ont envie, et même pas qu'aux petits, en fait, à n'importe qui ayant envie d'apprendre à lire, j'allais dire. Oui,
mais c'est une façon d'apprendre à lire. Ouais. D'aimer lire, c'est une façon d'apprendre
à lire. C'est dur, je veux dire, c'est, quand on n'est pas habitué à lire, c'est vraiment pas évident. C'est l'histoire d'un jeune frère, d'un frère de 17 ans, et il a un grand frère de 21 ans qui est trisomique, qui est handicapé. Et en fait, il refuse de le laisser être mis dans une espèce de pensionnat horrible dans lequel on s'occupera mal de lui. Son père, lui, les abandonne un peu à leur sort, parce que lui, le père, c'est hors de question qu'il s'occupe du grand frère. Il est en mode, non, ça y est, c'est bon. Ils débarquent à Paris, les deux, et ils décident de s'occuper de lui, envers et contre tout, avec ses petits moyens, avec ses petits trucs. Et il se met à vivre dans une colocation, il trouve refuge dans une coloc, avec d'autres jeunes. Et du coup, il y a tout un truc où ce grand frère trisomique apporte une joie, une folie, des galères à tout le monde. C'est hyper beau, en fait.
Si vous l'avez lu au moment où c'était sorti, vous avez 9 ans. Parce qu'il sort en 2004.
Par là. C'est sûrement par là, ouais.
On vous écoute dans un extrait ?
Ouais, carrément. Je vais lire la première page du livre. Chapitre 1. Où Monsieur Pimpin pète le téléphone. Kléber jeta un regard oblique à son frère. Simple imitait le bruit des portes du métro à mi-voix. Pii, clap. Un homme monta à la station et s'assit à côté de Kléber. Il tenait en laisse un berger allemand. Simple se trémoussa sur la banquette. « Il a un chien !» dit-il. Le propriétaire du berger dévisagea celui qui venait de parler. C'était un jeune homme aux yeux clairs écarquillés. « Il a un chien, le monsieur !» répéta-t-il de plus en plus agité. « Oui, oui !» lui répondit Kléber en essayant de le rappeler à l'ordre d'un froncement de sourcils. « Tu crois que je peux le caresser ?» dit Simple en avançant la main vers le chien. « Non !» aboya Kléber. L'homme regarda l'un après l'autre les deux frères comme pour évaluer la situation. « Moi, j'ai un lapin !» lui dit le jeune homme aux yeux clairs. « Mais ne parle pas aux gens que tu ne connais pas !» gronda Kléber. Puis il se décida et se tourna vers l'homme au chien. « Excusez-le, monsieur, c'est un débile mental !» Un idiot, rectifia l'autre en détachant les syllabes. L'homme se leva et sans un mot, tira sur la laisse de son chien. Il descendit à la station suivante. Connard, maugréa Kléber. Oh oh, vilain mot, dit son frère. Vilain mot. Il le répète tout le long du truc et c'est drôle.
Vilain mot.
Oui, à chaque fois qu'il y a. En fait, il ne cesse de créer des problèmes. Les gens.
Sortent de leur roue.
Du coup, sortent de leur roue. Et après, oh, vilain mot.
C'est marrant parce que vous avez dit que une de vos découvertes de lecture était l'idiot de Dostoïevski. Et là, on voit revenir cette figure du simple, de l'idiot. Comme s'il y avait quelque chose aussi que vous regardiez.
C'est très juste, et on le verra aussi dans Les Misérables que j'ai choisi.
C'est vrai.
Hugo.
C'est vrai.
En fait, je me suis rendu compte que j'adorais les figures un peu christiques, un peu angéliques. Et dans Dostoïevski, il y a ce truc-là. Par ailleurs, dans Dostoïevski, le personnage principal est très proche des enfants. Ce rapport à l'enfance, à l'innocence et à la. À une manière un peu.
Émerveillée.
Ouais, émerveillée et très. Je suis pas très pur de voir les choses, d'être dans Les Misérables. Quand on en parlera tout à l'heure de l'évêque.
On y va. Quand est-ce que vous découvrez Les Misérables de Victor Hugo?
Je pense petit comme un peu tout le monde parce que c'est tellement un monument que tout le monde en entend toujours parler. Et du coup, Les Misérables, boum, ok, j'essaye. Et en fait, incroyable. Hugo, Victor Hugo, bon, je connaissais évidemment de nom. Et puis après, moi, j'avais un moment où j'avais vu ses discours à l'Assemblée, ses discours racistes, où j'étais en mode, oui. Et puis j'avais des débats avec mes voisins qui me disaient, mais c'est un contexte, c'est une époque. Et je disais, mais oui, mais quand même, etc. Enfin, bon, bref, il y avait un truc comme ça, mais je connaissais pas vraiment son œuvre. Mais c'est un putain de génie. Enfin, il est, enfin,
il paraît,
trop fort.
Ouais.
Enfin, il est trop fort. Il peut avoir tous les défauts du monde, mais il est trop fort. Enfin.
Attention, hein, cette phrase, elle prête à.
Elle prête
discussion.
À... Ouais, je sais pas, en fait. D'ailleurs, j'en sais rien quel défaut il avait, si ce n'est ce discours que moi, dont je lui tiens rigueur à l'Assemblée à cette époque-là. Mais en tout cas, c'est un génie littéraire.
Quand vous passez au conservatoire à Paris, le conservatoire Paris 8e, vous étiez déjà passé par le conservatoire, un autre conservatoire.
À Rouen.
À Rouen.
Ouais, quand j'étais plus jeune.
Qu'est-ce que vous avez comme épiphanie de lecture? Qu'est-ce qui vous attrape, je sais pas, dans les textes de théâtre que vous travaillez? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans?
Il y en a deux, j'hésite. Mais... Il y a Eda Gabler, qu'on a travaillé à Paris, quand j'étais au conservatoire du 8e, qui m'a marqué. Parce qu'en fait, au théâtre, ce qui est fou, et c'est là tout le talent des metteurs en scène et de ma prof à cette époque-là, en fait, la mise en scène permet tellement de révéler des choses parfois. Et, mais ouais, le fait de découvrir comment, en travaillant la scène, en triturant la matière, en essayant de comprendre ce qu'il y avait derrière, tu pouvais faire naître des enjeux complètement fous et que le jeu allait vraiment révéler des choses, c'est fort.
Deuxième épiphanie ?
Non, je pensais aussi, je sais que j'avais aimé faire le mariage forcé de Molière. C'était drôle, il y avait des trucs drôles, je me disais...
Qu'est-ce qui vous amène au conservatoire à Rouen ?
Mais l'histoire du théâtre et du jeu, pour moi, c'est... je suis en primaire, il y a un monsieur qui vient, Emmanuel Billy s'appelle, donc Emmanuel une fois de plus, les Emmanuels comptent pour moi dans cette vie, il vient faire le petit poussé avec nous, on fait le petit poussé, je joue le petit poussé, je m'amuse beaucoup, il dit à mes parents, à l'issue de la représentation de fin d'année, « Oh, c'est bien ce qu'il fait, faudrait l'inscrire au théâtre ». Mes parents m'inscrivent au théâtre et là je travaille avec une professeure qui s'appelait Christine et qui m'a donné un goût pour le théâtre absolument qui m'a tenu depuis. J'ai adoré, on faisait des impros, on faisait des trucs et je me suis rendu compte que j'aimais le jeu parce que j'allais là-bas le mercredi après-midi et peu importe l'humeur à laquelle, dans laquelle j'allais là-bas, je ressortais toujours mieux. Donc même si je venais de bonne humeur, c'était super bonne humeur après, je venais de mauvaise humeur, c'était bonne humeur après, et ça permet de savoir qu'on aime quelque chose, c'était un bon signe. Mais j'ai vraiment gardé ça au fond de moi. Et du coup, ensuite, grâce à mes parents, j'imagine, enfin, je me suis inscrit pour le conservatoire de Rouen, j'avais passé le concours au collège, et puis, et ainsi de suite, quoi. Et quand je suis arrivé à Paris, le théâtre m'a manqué dans ma vie. Pareil, j'en faisais plus pendant un an ou deux, et ça m'a manqué. Donc là, j'ai été au conservatoire du 8e.
Et je disais tout à l'heure que, comme pas mal de gens, moi, je vous ai vu pour la première fois sur un écran avec la série Drôle, et où vous avez très envie d'être comédien dans cette série, mais comédien dans un art particulier qu'est le stand-up. Ça vous a tenté?
Un truc que j'aime à me raconter, c'est que quand je suis arrivé au lycée, j'ai rencontré des potes qui aimaient le rap. Et donc, on s'est mis à faire du rap. Mais si moi, j'avais rencontré des potes qui aimaient le stand-up, je me serais mis à faire du stand-up. Mmh. Ça me plaisait déjà. Il y a de l'art de la punchline dedans. Il y a plein de trucs. Et quand je me suis mis à préparer Drôle, déjà, j'étais ravi d'avoir ce rôle. Donc, on allait commencer directement avec les textes de moi, Nézir, etc.
Nézir, c'est le nom de votre personnage.
Nézir, le nom de mon perso, et les autres personnages avec leurs textes écrits, donc, pour l'occasion. Et moi, j'avais voulu, je m'en souviens, on était à Barbès Comedy Club, et on avait fait un premier stand-up devant une assemblée, etc. Et moi, j'avais voulu faire le mien, écrire le mien. Genre, je voulais me lancer, je voulais faire ce défi. Et quel plaisir quand on obtient des rires d'un truc qu'on a écrit. Ça s'était plutôt pas mal passé, j'étais assez fier. Et non, il y avait des trucs qui fonctionnaient pas aussi. Enfin, c'est génial. Mmh. Pour devenir fort, il aurait fallu que je travaille tellement. Enfin, je veux dire, c'est un vrai truc et tout. Et j'avais pas du tout le. J'avais déjà travaillé bien dans le rap, j'avais essayé de faire de mon mieux là-bas, j'avais d'autres trucs à faire. Bref, donc j'ai pas fait ça. Et ça aurait pu.
Tout ce détour pour revenir au Misérable de Victor Hugo.
Oui.
Vous avez choisi de nous lire un extrait. Younès Boussif, on vous écoute.
C'est le moment où Jean Valjean a dormi chez l'évêque. C'est le début du roman. C'est un forçat. Il sort du bagne et il erre dans les rues des villes. Et personne ne veut de lui parce qu'en fait, en tant que bagnard, tu dois t'indiquer, te présenter te signaler en tant que bagnard. Donc personne, tout le monde le sait et personne ne l'accueille. Donc c'est horrible. Personne ne veut de lui, etc. Jusqu'à ce qu'on lui indique une maison qui est la maison d'un évêque qui visiblement a bonne réputation. Et effectivement, il se présente et l'évêque l'accueille. Et donc, il passe la nuit là-bas. Il passe une nuit d'ailleurs qui est même pas agréable parce que, ça fait 15 ans qu'il n'a pas dormi dans un lit, il a toujours dormi sur des trucs durs, là le lit est confortable, il comprend pas cet accueil qu'on lui fait, cette bonté de l'évêque, et il a repéré pendant la soirée un chandelier ou un objet en argent de valeur, c'est le seul objet en valeur d'ailleurs dans cette maison dans laquelle l'évêque vit chichement, et on sait qu'il a vu ce truc-là. Et en fait, au petit matin, l'évêque se réveille, et le bagnard a disparu, et l'objet de valeur a également disparu. Et les femmes qui vivent avec lui, avec l'évêque, sont effarées du vol qui a eu lieu, et l'évêque lui est en mode, non mais est-ce que... il est un peu exaspérant, limite, il est en mode, mais cet objet n'appartenait-il pas aux pauvres? Et n'était-ce pas un pauvre avec nous hier soir? Et donc il est un peu, il est vraiment hyper philosophe et hyper à l'aise avec le fait qu'on lui ait pris ce truc-là. Et on se retrouve, donc c'est peu de temps après ça, et on se retrouve le matin, et ça frappe à la porte. Entrez, dit l'évêque. La porte s'ouvrit. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. Trois hommes en tenaient un quatrième au collet. Les trois hommes étaient des gendarmes, l'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur, dit-il. » À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur, murmura-t-il, ce n'est donc pas le curé ?»« Silence, dit un gendarme, c'est Monseigneur l'évêque. » Cependant, Monseigneur bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. »« Eh bien, mais, je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait était donc vrai ? Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va, nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie. Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Je vois la chose, et vous l'avez ramené ici, c'est une méprise. » « Comme cela, reprit le brigadier, nous pouvons le laisser aller. »« Sans doute, répondit l'évêque. » Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. « Est-ce vrai qu'on me laisse ? » dit-il d'une voix presque inarticulée et comme s'il parlait dans le sommeil. « Oui, on te laisse, tu n'entends donc pas ? » dit un gendarme. « Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers, prenez-les. » Il alla à la cheminée, prit les deux flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les deux femmes le regardaient faire sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les deux chandeliers machinalement et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. » Puis se tournant vers la gendarmerie, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ses paroles en les prononçant. Il reprit avec une sorte de solennité « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. » C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition et je la donne à Dieu. Hyper content d'avoir choisi cet extrait. C'est un plaisir de le lire, c'est trop bien. Vous voyez, ce qui m'émeut là-dedans, c'est... Il retourne chercher... Vous avez oublié vos couverts. Il va aller chercher ses couverts. Et tout le monde est... Et le premier, Jean Valjean, il est complètement ahuri. Les femmes aussi. Je trouve ça trop fort. Je trouve ça...
Qu'est-ce qui vous touche, que ce soit à ce point du côté du bien, en fait, ouais, la bonté,
la
quoi.
Bonté. Mmh. Je trouve ça hyper touchant d'être capable de générosité à ce point, d'empathie, de désintérêt pour soi-même, de sauver l'autre comme ça, d'essayer de...
Là, c'est en rapport avec Dieu, à la fin, quand même. Il le fait passer d'un royaume à l'autre, vous n'êtes plus dans le royaume du mal. J'ai l'impression que de la manière dont vous le lisez, il y a quelque chose qui est assez terrestre, quoi. C'est plutôt les hommes entre eux.
Oui. Oui, c'est pas. J'étais en train de me dire en le lisant que je l'ai pas choisi pour la dernière partie. Mmh. Je l'ai choisi pour.
Attends. Non seulement je suis en train de te sauver, mais en plus tu vas repartir avec deux chandeliers en arrière.
Ouais. Mais c'est marrant que vous évoquiez Dieu parce que un truc, moi, dans la religion, qui, moi, je suis musulman, mais je fais mon bout de chemin, pareil comme tout le monde. Et un truc important, c'est par exemple dans la religion musulmane, on nous parle des hasanet. Donc c'est ce qu'on gagne à faire le bien.
En fait. Bonnes actions, quoi.
Les bonnes actions qui nous font comme. Moi, c'est pas ma vision que de voir les choses comme un compte en banque qui se remplit. Non, mais parce que pour certains, presque, t'as l'impression que ça l'est. J'ai fait un tant de bons points, donc ça m'apporte tant de hasanet et tant de machin, etc. Et c'est pas ma vision des trucs. Et ce qui m'émeut, c'est quand on a le sentiment que c'est fait de manière. Enfin voilà, le bien pour le bien, quoi. Et oui, bien sûr que Dieu nous y amène, bien sûr qu'il y a quelque chose, mais de la manière la plus désintéressée possible. Je crois que c'est hyper important, quand on essaye de faire le bien, d'être le plus à l'écart de sa bonne action possible. C'est comme aujourd'hui, moi, un truc, une réflexion qui me vient souvent, c'est aujourd'hui, comme il y a tellement de vidéos, comme il y a TikTok, comme il y a tout, et qu'il y a maintenant des lunettes Ray-Ban qui filment, et tu peux tout filmer, et machin. Tu sais, il y a plein de vidéos qui fleurissent, de gens qui font des bonnes actions, qui sont filmées. Et ça fait le buzz sur Internet, et tout le monde voit que, ah, il est sympa, il a fait ci, ça. Ça m'interroge toujours. Nous, en islam, il y a aussi un truc de... Fais le bien, mais ne le dis à personne, en fait. Et je trouve ça hyper beau, et j'y aspire. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Jean Valjean, il va se retrouver dans une forêt, il va y avoir un petit qui passe, et il va perdre une pièce. Et Jean Valjean, il va poser son pied sur la pièce, il va empêcher le petit de récupérer la pièce. Et le petit va pleurer, va machin, etc. Il va pas déboulonner, il va pas lui laisser sa pièce. Et le petit part, donc avec cette mauvaise action qu'il vient de faire, et là, il y a tout qui lâche chez Jean Valjean. De son, je me souviens, je l'ai pas relu depuis longtemps, mais il y a tout qui lâche et il y a un truc où il sait que c'est la dernière mauvaise action qu'il va faire. Ça y est, en fait, après ce que lui a fait l'évêque, il y a un truc où il ne peut que faire le bien. C'est terrible, ce qu'il ne peut pas, en fait, c'est trop, ça lui. Alors qu'il a vécu 1000 injustices avant. Et bref, dans la construction narrative que nous offre Hugo à cet endroit-là, je trouve ça extraordinaire.
Voilà, arrivé à votre troisième choix, Younes Boussif. Vous avez choisi d'évoquer un essai, cette fois-ci, un texte plus théorique. Il est signé Louisa Yousfi. On va l'écouter dans cette archive. Elle revient sur son livre et sur le titre « Rester barbare ».
Il se trouve que lorsque je l'ai entendu pour la première fois, cette formule, j'ai été traversée par l'idée qu'elle allait me délivrer. Parce que c'était finalement la formule d'une condition qui est la mienne, qui est celle des populations issues de l'immigration post-coloniale. Et en même temps, c'était la formule d'un processus auquel on est destiné. Je dirais même tragiquement destiné. En fait, c'est l'histoire de l'intégration. Je dis tragiquement parce que l'intégration, pour nous, signifie en fait d'avoir à s'intégrer, à s'insérer dans un système, dans un pays qui puise son empire sur l'idée que il y a une organisation morale du monde. Elle nous impose une espèce d'impasse, en fait, qui est une impasse existentielle, puisque s'intégrer, en fait, dans ce système, dans ce pays, pour nous, ça signifie, en fait, avoir à renier, du moins à abandonner certaines choses qui fondent en fait notre être le plus fondamental, que sont notre culture d'origine, nos langues, nos formes de vie, et de manière plus concrète en fait nos parents aussi.
D'où viennent les barbares que nous sommes ? Quelle est donc cette barbarie originelle qu'il s'agit de garder ? On se met à bégayer, on ne sait pas. Comment pleurer une authenticité jamais connue et pourtant véritablement perdue? Quel est-il, cet élan de préservation sans objet? C'est un élan identitaire, nous chuchote-t-on. Il ne faut pas y céder, c'est une évanescence, un sentiment paradoxal, c'est la nostalgie de ce qui n'a pas eu lieu. Quel descendant de l'immigration ne la ressent pas au fond de lui? Ne ressent pas ce qui lentement, à mesure que l'intégration se poursuit, le quitte à tout jamais. C'est un sentiment impossible. Et s'ouvre alors un continent de questions. Elles commencent toutes par « qu'aurions-nous été si ?» Si la colonisation n'avait pas organisé un rapport de force morale qui tient en échec la civilisation, le pays et la famille qui auraient dû nous voir naître et grandir? Si l'intégrationnisme n'avait pas édicté pour nous les conditions de notre salut dans ce pays conditionnel qui n'a rien d'une patrie? Qu'aurions-nous été si ? Trois points de suspension, question.
Vous venez de lire un extrait de « Rester barbare » de Louisa Yousfi, qui est sorti en 2022 aux éditions de La Fabrique. Younes Boussif, et juste avant, c'était sa voix, en 2022, à l'occasion de la sortie de son livre. On change de registre, on passe des Misérables de Victor Hugo à ce texte qui est plus du côté des essais. Pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi ça devait figurer dans vos choix aujourd'hui?
Parce que c'est un ouvrage qui, depuis que je l'ai lu, vit avec moi et me reste en tête. Quand je l'ai lu, j'ai pas été d'accord avec tout, mais déjà le titre m'interpelle, j'adore le titre. Et il y a quand même plein de choses qui m'ont marqué. Il agit un peu comme du poil à gratter, ce texte, pour moi. Il agit comme, et comme une boussole aussi. Il y a un truc hyper important qui est dit dedans, je crois. Il y a quelque chose que je comprends instinctivement, intuitivement, et qui veut comme... qu'on garde un certain cap, c'est pour ça que je disais boussole tout à l'heure. Il y a un truc vraiment important pour moi dedans, mais je sens que j'ai besoin de le relire, de comprendre ce avec quoi je suis d'accord, ce avec quoi je suis pas d'accord. Et un truc, en vrai d'ailleurs, avant de venir, j'ai quand même pris le temps de le refeuilleter. Et il y a, alors j'adore ça dans les livres, dans tous les livres d'ailleurs, c'est les dédicaces de début. Ceux à qui le livre est dédié. J'ai trouvé que celle-ci éclairait pas mal le texte. Elle dit en première page, à maman qui me gronderait pour écrire ses méchancetés, à papa qui sourirait. Et je trouve que si tu... Une fois que t'as ça, le texte a encore une autre dimension. Il y a un certain recul qu'on prend. Je pense que c'est important. Elle le dit, cette phrase, « J'ai resté barbare comme une délivrance », c'est ce qu'elle disait là dans l'interview qu'on entendait. Et je pense que ouais, elle avait besoin de sortir tout ça de son être. Et je comprends. Et ouais, c'est vraiment un truc important.
C'est des questions qui vous agitent, vous ?
Ouais, bien sûr.
Parce qu'elle dit, par exemple, elle affirme « Quel descendant de l'immigration ne ressent pas en lui-même profondément ce qu'il quitte, ce qui le quitte dans la politique d'intégration menée par la France ?»
Complet. Et c'est drôle parce que, en plus, déjà, moi, l'édition que j'ai là, c'est une jeune supportrice dont je me souviens plus le visage, mais qui me l'a offert à l'issue d'un concert, en fait. Elle me l'a offert à l'issue de mon dernier concert, je pense, d'ailleurs, 2022, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai arrêté le rap, en me disant « Younes, j'espère que ce livre sera bouffé d'oxygène, Maria. Plutôt loup-garou que villageois. » Et plutôt loup-garou que villageois, c'est une des paroles d'un de mes textes qui s'appelle « Le Grand Remplacement ». Et
super spectatrice.
Ouais, non, mais incroyable. Enfin, Maria, si tu m'entends, merci encore, parce que ça a vécu avec moi. Enfin, ce livre m'habite depuis. Et marrant aussi, pour encore faire un parallèle avec le rap, je me souviens, j'ai été après le lycée, j'ai été en prépa Sciences Po un an, et j'ai raté lamentablement les concours, j'étais en peine de cœur, je travaillais pas particulièrement, je faisais pas... Et je me souviens d'un sujet qu'il y avait eu un jour, et c'était « Les particularismes sont-ils solubles dans la République ?» Un truc comme ça. Et j'avais été nul, plus ou moins, j'avais rien dit de très intéressant, je crois, enfin j'avais plutôt galéré.
Tout particularisme confondu.
Je crois que c'était ça, l'intitulé, c'était plutôt... Ouais, c'était ça. Et c'est 4 ans plus tard, ou un truc comme ça, en écrivant du rap, enfin j'étais en train de faire du rap, que, boum, j'ai une punchline qui m'est venue, je sais pas pourquoi, en pensant à ça, et c'était « Pour être soluble dans ce bled, faut-il me dissoudre ?» Et donc la question de l'intégration, bien sûr que tout enfant de l'immigration se la pose, et... Elle pose la question de qu'est-ce qu'on doit abandonner. Est-ce qu'on nous demande d'abandonner quelque chose? Et il y a une fierté. Et en plus, moi, en tant qu'Algérien, il y a évidemment le rapport entre l'Algérie et la France est particulier. Et il y a un truc de fierté. Il y a un truc de. Il y a tellement de questions traumatiques qu'on se transmet. Moi, mon père, il a perdu ses parents pendant la guerre d'Algérie, tué par la France, par l'armée française. Et ça vient remuer tout plein de questions, en fait, sur nos identités. Évidemment que je dois parler cette langue et de la meilleure des manières possibles pour... Alors, rester barbare, là, c'est l'expression ici, mais il y a un truc hyper important là-dedans. Et je pourrais même faire un parallèle, je crois qu'il me plaît beaucoup, ce texte. Je viens de le voir, là. Il y a un autre texte, en fait, une épiphanie dans le théâtre. J'ai pas du tout pensé à ça tout à l'heure, mais évidemment, c'est Cyrano de Bergerac, moi. Cyrano de Bergerac, ça a été extraordinaire. Quand j'ai découvert cette pièce et que je l'ai joué, j'ai adoré. Et notamment parce que Cyrano, pour moi, c'est le plus indépendant des artistes. C'était une espèce de Hugo TSR dans le rap. C'est une espèce de Booba aussi. Elle cite beaucoup Booba, Louisa Yousfi dans ce texte. Parce qu'il... Et donc, lui, c'est son monologue « Même les feuilles », où il parle de son indépendance et de sa dignité et de sa fierté. Envers et contre tout, il ne veut pas se trahir. Il ne veut pas rentrer dans cette espèce d'industrie de l'époque, des petits poètes. Il préfère, plutôt que d'aller à un dîner pour discuter, faire un poème dans son coin. Et s'il faut mourir misérable, mais avec la tête haute, eh ben, il fera ça. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans ce livre-là. Et je trouve que c'est hyper important, de piqûre de rappel, poil à gratter, de se confronter à ce truc-là fréquemment.
Culture, le Book Club.
Dans cette bibliothèque Younes Boussif, il reste trois textes en priorité. Vers où allons-nous? Puisque c'est votre bibliothèque.
Je sais pas, est-ce qu'on n'évoque pas les trois et après vous couperez ce que vous voulez? Non, c'est pas comme ça qu'on fait?
Non, c'est pas comme ça qu'on fait dans la vie, on choisit, non?
Mais moi, c'est mon premier défaut, l'indécision.
Mais...
Je saisis le truc, quoi.
C'est l'occasion ou jamais.
Bukowski, peut-être. Ouais, Bukowski, parlons de Bukowski. J'ai vainement essayé de redormir après son départ. Je m'angoissais pour Thanksgiving, je me demandais comment j'allais lui annoncer que je ne pourrais pas être avec elle. Cela m'ennuyait, je me suis levé, j'ai fait les 100 pas, j'ai pris un bain, sans résultat. Iris allait peut-être changer d'avis, son avion allait peut-être s'écraser. Le matin de Thanksgiving, je téléphonerai à Debra pour lui dire que, tout compte fait, j'étais libre. J'arpentais les pièces de plus en plus agitées. Mon malaise provenait peut-être du fait que j'étais resté ici au lieu de retourner chez moi. Cela donnait à Debra une trompeuse impression de sécurité. Cela ressemblait à une agonie sans fin. Quel genre de merde étais-je donc? Pas de doute, je pouvais jouer des tours de salaud, des tours de cochon. Pourquoi essayais-je de prendre une revanche quelconque? Pouvais-je continuer à me dire que tout cela était uniquement motivé par la recherche, par mon étude de l'univers féminin? Ça sonnait faux à la fin. Je laissais tout simplement les choses se passer sans même y penser. Seul m'importait mon petit plaisir égoïste. Je ressemblais à un adolescent gâté. J'étais pire que la pire des putes. Une pute en a après ton argent, rien de plus. Moi, je jonglais avec les vies et les âmes comme avec des jouets. Comment pouvais-je moi-même me compter parmi les êtres humains?
C'est un extrait de Women, paru aux États-Unis en 1878 et qui paraît en français en 1981 dans la traduction de Brice Mathiossen, Charles Bukowski.
Ouais, c'est.
Qui porte un regard lucide en tant que personnage.
Le genre masculin, j'ai envie de dire.
J'ai failli dire ça.
C'est ça, je l'ai senti. Hein. J'ai senti que.
J'ai dit sur le... Au début, je me suis dit sur le genre masculin, mais je me suis dit non, on ne généralise rien sur son personnage masculin. Pourquoi vous avez choisi ça?
C'est une de mes lectures récentes. J'ai découvert Bukowski cette année ou l'année dernière. Et il m'a choqué. J'avais jamais rien lu de tel. J'ai commencé par Woman. Et j'avais rien lu de tel. C'était brut, barbare, c'était abrupt, c'était vulgaire. Alors, ouais, Parental Advisory. Là, j'ai pas fait de Parental Advisory avant de lire, mais.
Oh là, ça va quand même.
Ça va. Mais je le lirai pas avec mes parents à voix haute, quoi. Je sais pas, bref, il parle beaucoup de sexe, il parle beaucoup de choses hyper crues.
C'est tranquille.
Non, ça va. J'ai fait un master de création littéraire à Paris 8, dans lequel j'essaie de travailler mon écriture, puisque j'ambitionne d'écrire. Et d'ailleurs, je crois que ça m'a beaucoup plu parce qu'il parle des auteurs, en fait. C'est un auteur qui parle de lui-même. Et quand j'étais au Paris 8, au master création littéraire, il y a un truc que j'ai appris, pour le coup, grâce aux élèves avec moi, avec qui on partageait des textes, du coup. Et il y en avait certains qui avaient déjà compris ce truc-là, deux, trois femmes qui partageaient leur truc et qui écrivaient comme elles voulaient écrire. Je me souviens d'une nana qui s'appelait Lucia. J'entendais son accent, j'entendais sa voix, en fait, quand elle le faisait, quand je lisais ses textes. Et j'étais en mode, ah, mais oui, c'est fort, en fait, c'est ça. Écrire, c'est, utilise ta voix, en fait. Tu vois, moi, à cette époque-là, à ce moment-là, j'essayais de faire des phrases hyper neutres parce que j'avais peur d'avoir un style et parce que j'avais peur de machin. Et donc, j'étais dans un truc très carré, sans saveur et machin. Et Bukowski, c'est ça aussi. Je crois que c'est sa voix. Enfin, il est fou. Il est dans aussi un truc qui m'intéresse chez lui, c'est cette spirale de sexe, d'alcool, de débauche et de femme. Moi, encore plus, le truc de passer de femme en femme, mais tel un consommateur et d'être dans un truc aussi horrible, mais cru et hyper sincère vis-à-vis de lui aussi, que moi, je trouve hyper fort. Je suis content que des textes comme ça existent, que quelqu'un puisse te dire ça de lui. Je crois que c'est important qu'on puisse bref, que ça existe, quoi. Parce que ça, c'est important. Marie qui me regarde en rigolant, qu'est-ce qu'il y a? Bref, donc ça a été une belle découverte. Et derrière, je lis Souvenir d'un pas grand-chose. Et Souvenir d'un pas grand-chose, c'est tout ce dont il se souvient depuis son premier souvenir jusqu'à sa mort, quoi, globalement, depuis jusqu'à l'âge qu'il a vieux. Moi, je conseille, pour ceux qui connaissent pas, de commencer par Woman, par exemple, pour être choqué, puis lire l'autre, parce qu'il y a un truc où, d'un coup, tu vois comment il est devenu cet homme de Woman, et tu vois par quoi c'est passé, et ses traumatismes d'enfance, et il y a un moment qui est hyper fort aussi, où il parle de son acné, il a une espèce d'acné monstrueux, où pendant des années, il ressemblait à rien, il se voyait comme un monstre laid, et bref, c'est hyper fort et j'ai adoré Bukowski. Trop bien.
Puisqu'on parle de voix, on va écouter celle de Milan Kundera.
Je crois que le roman permet une confrontation, pas seulement entre les différents âges de la même personnage, mais aussi entre les différentes époques de l'histoire de l'humanité. Par exemple, je crois que chaque roman a une certaine confrontation de l'époque présente avec les mythes anciens, qui sont toujours invisiblement présents dans notre vie. Et je crois que chaque roman pose toujours une question très élémentaire. Qu'est-ce que l'homme? Et chaque roman veut trouver une nouvelle réponse à cette question très, très simple. Je n'aime pas les romans qui font le message, qui veulent démontrer que une thèse philosophique ou religieuse ou politique, parce que c'est toujours une simplification. Et je crois que le rôle du roman est opposé, que le roman doit défendre la complexité des choses, la complexité de l'homme, et que s'il y a un message éternel des romans, alors c'est à dire au lecteur: le monde est beaucoup plus compliqué que tu ne penses. Tu dois tirer les conséquences de la complexité des choses et du monde. Comme disait un rabbin pragois, tout est différent. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Tout est différent de ce que tu ne penses. Alors c'est la vérité du roman. C'est la drôle de vérité, n'est-ce pas? Parce que c'est une anti-vérité, n'est-ce pas? Ça veut dire la vérité est beaucoup plus difficile que tu ne penses.
Vous
donneriez votre vie pour découvrir autour de vous la laideur que vous portez à l'intérieur de vous-même. C'est pour vous le seul moyen de vous sentir un moment en paix avec le monde, car le monde, qui est beau, vous fait peur, il vous fait mal et vous repousse sans cesse de son centre. Comme il est intolérable d'avoir de la saleté sous les ongles et une jolie femme à côté de soi. Alors, il faut d'abord salir la femme et en jouir ensuite. N'est-ce pas ainsi, monsieur ? Je suis heureux que vous cachiez vos mains sous la table, j'avais certainement raison de parler de vos ongles.
C'est un extrait de La valse aux adieux, paru en 76, et c'est votre dernier choix.
Oui.
Et juste avant, on entendait la voix de Milan Kundera, en 76 justement.
Depuis que j'ai lu ce livre-là, et cet extrait-là notamment, je supporte plus les ongles sales. Ça m'est resté dans la tête, je peux plus... Non, mais les miens, j'entends. Je regarde pas forcément ceux des autres, mais j'ai découvert Kundera aussi assez récemment. J'ai eu la chance de le lire, j'ai un pote qui est un peu boulimique, un artiste qui s'appelle Riles, et lui, comme il est... hyper discipliné, il a lu Kundera, il a aimé, et donc on a décidé de tout lire de Kundera. Donc on a tout lu de Kundera, et on pouvait s'en parler. Et La valse aux adieux, je trouve qu'il monte en puissance, comme une valse, ce roman. C'est pas le meilleur au début, je trouve, mais qu'à la fin, on s'amuse drôlement en lisant. Et Bertlef, le personnage qui disait donc l'extrait que j'ai lu, est presque, alors j'ai pas envie de dire de bêtises parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais presque aussi, comme on disait tout à l'heure, une espèce de personnage christique, un peu une espèce d'ange. Donc à chaque fois, moi je les aime, ceux-là. Et il vient à cette table et il apostrophe trois hommes qui se comportaient comme des goujats avec une femme. Et c'est pas juste il la défend, c'est pas pour le chevalier servant qui vient défendre une femme, mais plus pour, enfin un peu quand même, mais plus parce que ouais, il vient et il les éteint avec son bagou, quoi. Avec ce, il parle et les autres ils sont bouche bée et ils sont débiles, et en fait il les éteint complètement. Et depuis, les ongles sales, cette punchline là, je suis en mode, j'aimerais bien le jouer. Je crois, je m'étais déjà dit à un moment, est-ce que je pourrais jouer cette
mais
scène-là.
Mais au-delà de les éteindre, il dit quand même une vérité incroyable. Le monde qui est beau vous fait peur, oui. Il vous fait mal, il vous repousse sans cesse de son centre, et comme il est intolérable d'avoir de la saleté sous les ongles, nanana, il faut d'abord salir la femme et en jouir ensuite, n'est-ce pas ainsi, monsieur ?
Trop fort, ouais.
Nous n'avons pas fait suffisamment l'éloge de votre amour pour les mangas, Younes Boussif. Moi, je pense que quand même si, parce qu'on vous voit dans une voiture en train de traverser la France pour aller au Maroc ou en Algérie avec 10 tomes de mangas sous les genoux, choisissant exactement la portion d'autoroute pour ne pas vomir. C'est déjà une forme d'éloge, non ?
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'avais bien envie de parler de manga aussi ici, parce que je trouve que c'est...
Pas assez évoqué, vous avez raison.
C'est ça, alors que c'est extra... Moi, quand j'étais petit encore plus, c'était vu comme une espèce de culture... Vous voyez, comme on voit les BD, bah, c'était encore moins que les BD, donc machin. Là, c'est de plus en plus reconnu. Et c'est, moi, les mangas, c'est le truc pour lequel je deviens boulimique, justement. Je commence un truc et je ne peux m'arrêter pendant tout le long. Et j'avais ramené Kingdom avec moi, qui est un manga sur la création de la Chine. C'est une fiction, mais qui s'attarde sur des vrais faits historiques autour de ces 7 royaumes guerriers qui se sont battus pendant des années avant que la Chine soit créée. Et c'est hyper stylé. On rentre vraiment dans l'univers des guerres de cette époque-là, à l'épée, etc. Et c'est fou. Et voilà, je recommande.
Et c'est écrit par Yasuhisa Hara.
Je peux pas aider, je sais pas non plus.
Je vais vraiment pas me la raconter plus que ça.
C'est très bien, je pense.
Et traduit du japonais par Rémi Buquet. Merci beaucoup, Younes Boussif.
Merci
d'avoir déballé votre
vidéo. Ravie d'être là.
Plaisir partagé.
Non, de toute façon, ça arrive très rarement que j'invite des filles au restaurant, parce que moi, je suis timide avec les filles. Et plus une fille me plaît, plus je suis timide avec elle. Ouais, ça n'aide pas, parce que moi, si vous voulez, très clairement, mes moyens avec les filles, c'est ma tchatch, mon humour, ma répartie. Quand la peur m'enlève ces moyens, que me reste-t-il ? Ce corps. Non, récemment, tout de même, j'ai réussi à braver ma timidité avec une fille. Je vous dis la vérité. à tel point que je suis allé jusqu'à chez elle pour lui rapporter un bracelet. En vérité, le bracelet, je lui offrais pas vraiment. C'était pas vraiment un cadeau parce qu'elle l'avait oublié, juste, tu vois. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme un ouf. C'était mieux qu'un cadeau parce que j'étais pas à découvert. Mais en plus, j'étais sûr que ce soit ses goûts. Donc je vais jusqu'à là-bas. 6e arrondissement. Très beau, très bel immeuble haussmannien. De toute façon, ça se sentait hein, que cette fille-là, vu le prix du bracelet, c'était pas Cendrillon. Cendrillon, c'était moi. Il fallait que je prenne mon RER avant minuit, sinon je me transforme en SDF. J'arrive là-bas, je sonne, et là, une dame très élégante, sa mère, qui m'ouvre. Et je lis de... je lis de la stupeur dans ses yeux, si vous voulez. Je sens que cette femme, les seuls Arabes qu'elle ait jamais vus de sa vie, c'est soit des Uber, soit des princes saoudiens. Je vous laisse deviner à quelle catégorie elle m'a assimilé. Le prince Uber.
ما بنت الجار وديري مزيه محل النساء كراني كولي زاد عليا الهم والحماديه كي ندير نشوفك راكي طولي يا ماما ويا ماما شاطره غير في الخرجات حواس الوضويات يا ماما ويا ماما شاطره غير في الخرجات حواس الوضويات يا فاطمه بنت الجار وديري مزيه محل النساء كراني كولي زاد عليا الهم والحماديه كي ندير نشوفك راكي طولي يا ماما ويا ماما شاطرة غي في الخرجات حواس النطويات يا ماما ويا ماما شاطرة غي في الخرجات حواس النطويات.
Au son aujourd'hui pour cet épisode du Book Club, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Vivien Demeyer. Pour trouver tous les textes évoqués par Younes Boussif, rendez-vous sur la page franceculture.fr, le Book Club, où vous retrouverez les références des éditeurs, des éditions et des traductions. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à préparer ces émissions, et tout particulièrement aujourd'hui à Mathilde Wagman.
جاوبت عليا مولات الحزام وعطاتني رونديفو في لاكورنيش البحر هاي جوهر في اللي شافها هاد الليلة محلى نساها جاوبت عليا مولات